Alors moi je vous propose ce matin de reprendre ensemble une parabole qui est bien connue, qui se situe dans ce qu'on appelle le discours sur le mont des Oliviers, qui est un discours qui se trouve en fait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 et 25. C'est un discours prophétique qui est fait par Jésus, donc c'est lui-même qui nous l'a raconté, et qui porte en fait sur la fin des temps, et plus précisément encore sur la seconde venue de notre Seigneur, sur son retour. Alors il y a plusieurs paraboles dans ce discours. Certaines pour donner les signes de sa venue, justement, et d'autres davantage en tant qu'avertissement à être prêt pour le moment où cela va se produire. Et donc c'est des paraboles qui sont là pour nous exhorter à la vigilance. Et c'est à ce second cas que va se référer la parabole des 10 vierges qu'on va prendre ensemble ce matin, qu'on va lire dans Matthieu au chapitre 25, versets 1 à 13. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible pour ceux qui en ont une. Sinon, à écouter, je vais la lire. Donc Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent : Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors prions. Oui Seigneur, je veux encore ce matin, Seigneur, vraiment remettre ce moment, Seigneur, autour de ta parole, ensemble. Seigneur, je te demande que ton esprit vraiment soit en moi, Seigneur, ce matin, que ce soit tes paroles, Seigneur, qui sortent de ma bouche, que vraiment je puisse être ton instrument encore ce matin, Seigneur, dans voilà, la lecture et la méditation de ta parole, Seigneur. Amen. Alors en soi, cette parabole, on pourrait dire qu'elle est assez simple. On a les acteurs suivants qui sont l'époux, qui n'est autre en fait que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Puis on a 10 jeunes filles, 10 vierges, qui représentent en fait l'ensemble des chrétiens, ou plus précisément, et on va le voir après, les gens qui se déclarent chrétiens. Et on a au final une histoire aussi qui nous relate donc deux phases majeures. Le retard de l'époux, qui correspond en fait au délai du retour de Christ, et l'arrivée du Fils de l'homme, le retour de Jésus, avec, on le voit à la fin, le rejet d'une partie des vierges, les folles, et ça représente le jugement final et l'exclusion des faux chrétiens. Et ce matin, je ne vais pas faire compliqué, je vais rester simple, je vais reprendre simplement ces phases avec vous. Et donc en commençant par détailler le premier point qui est en fait le contexte un peu de cette parabole, les acteurs qui sont dedans, je vais revenir un peu dessus aussi. Donc voilà, là on est à un mariage en fait. On est en train d'assister, en tout cas la parabole reprend l'image d'un mariage. Pour que sa parabole parle à son auditoire, Jésus s'est tout simplement appuyé sur un événement qui était ordinaire et qui est ordinaire dans la vie, et notamment très connu donc, et qui parlait à tous les juifs. Et si on fait un peu d'histoire, un peu de culture, alors c'est que c'est toujours intéressant de préparer, de creuser encore davantage. Mais voilà, il faut savoir qu'à cette époque, donc les noces juives étaient composées de plusieurs cérémonies, en fait, et dont le point culminant se situait en fait lorsque l'épouse entrait dans la maison de l'époux et devenait membre de sa famille. Et pour ça, en fait, il y avait, l'usage comprenait deux coutumes. Il y avait un festin qui avait lieu dans la maison de l'époux, et juste avant, la visite de l'époux chez sa fiancée pour l'épouser et l'emmener dans sa maison. Et c'est ça qu'on voit ici, justement, dans cette parabole. Et donc, de soir ou de nuit, l'époux allait chercher sa fiancée avec un cortège, à la lueur de flambeaux, il y avait de la musique, des chants, et il ramenait donc sa fiancée, son époux, chez lui dans la salle de noces. Et les jeunes filles du village sortaient alors au-devant de l'époux pour se joindre au cortège et être admises au festin. Tout le monde était convié, à la condition, bien sûr, d'être revêtues quand même d'habits de fête et d'avoir avec elles leurs lampes pour se déplacer aussi. Et le banquet pouvait alors commencer. Alors le banquet, il faut savoir aussi que pour les Juifs, l'idée du royaume, c'était souvent lié à l'idée d'un festin. Et cette image du royaume des cieux qui est considérée comme un repas de noces, de fêtes, ça se retrouve aussi d'ailleurs dans la Bible. Si on prend Matthieu 8, verset 11, on voit « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Pourquoi un repas ? Pourquoi cette image, cette comparaison du royaume avec un repas ? Déjà parce qu'un repas, normalement, c'est un moment de joie, de convivialité. Et l'entrée dans le royaume des cieux, ce sera un temps de joie. Mais aussi parce que manger avec quelqu'un, c'est en fait témoigner une communion avec quelqu'un. C'est témoigner aussi qu'il n'y a pas de conflit entre ceux qui partagent le repas. Dans un de ses messages, Jean-Marc Taubois faisait remarquer que le mot « copain », étymologiquement, vient de là justement, du fait de manger le même pain. Et que quand il y a un conflit, on n'est plus copains, on mange en général plus ensemble. Jusqu'au moment où on se réconcilie. Et le repas devient alors un repas de réconciliation. Si on prend aussi l'image ou la parabole du fils prodigue, comment se termine cette parabole ? Avec un repas final qui scelle au final le pardon et la réconciliation entre le père et son fils. Et un repas où tout le monde est invité pour que tout le monde soit bien au courant, pour démontrer à tous cette réconciliation. Et bien de la même manière, à la fin des temps, Dieu montrera à toutes ses créatures, autour d'un festin, d'un banquet, vous voyez, j'avais un problème avec l'humanité, il y avait un conflit, mais maintenant, avec le sang de la croix, la paix est là. Et la réconciliation est là. On a déjà été réconciliés, oui, par le sang de Christ avec Dieu, notre Père, mais ce sera le moment où, autour de ce repas, ce sera démontré à tous. Alors après cette petite parenthèse, revenons quand même aux 10 jeunes filles, aux 10 vierges, qui sont mises en scène dans cette parabole. Alors toutes, les 10, se sont préparées. Elles ont pris leurs lampes, elles sont venues attendre le cortège. Elles sont toutes préparées, mais pas toutes de la même manière, ou pas toutes avec la même rigueur. Ce qui nous amène le découpage qui est présenté. 5 qui sont présentées comme insouciantes, folles, nous dit le texte, qui n'ont jamais imaginé un seul instant que l'époux puisse avoir du retard, qui n'ont pris aucune précaution en ce sens, et qui pensaient en fait qu'au plaisir de la fête et pas à ce qui pouvait être exigé pour pouvoir y participer. Et puis on a à côté 5 autres qui sont présentés comme sages, avisés, comme celles qui ont prévu un potentiel retard de l'époux, justement, on ne sait jamais, on a pris de l'huile dans des vases. Et donc voilà, elles ont été prévoyantes, et avec cette huile complémentaire, justement, leurs lampes, elles étaient sûres, ne pourraient jamais s'éteindre. En tout cas, elles auraient toujours de quoi les alimenter. Et donc, qui sont donc ces 10 filles, je l'ai dit en introduction, ce sont ceux qui se déclarent chrétiens. En général, dans la parole de Dieu, on voit souvent que l'Église est comparée à l'épouse, mais même si là, ce n'est pas l'épouse qui représente l'Église, c'est bien ces 10 vierges qui représentent l'Église. Et même qui représentera l'Église. Il y a un petit mot, je n'avais pas fait attention, mais dans l'étude, quelqu'un l'avait mis dans ses commentaires en avant, mais c'est le « sera ». Le royaume des cieux sera comme ces 10 vierges, et puis la suite. Et j'insiste sur ce petit mot au futur, ce verbe au futur, parce que souvent les paraboles nous disent « le royaume est semblable ». Là, c'est « le royaume des cieux sera semblable ». Parce que la parabole nous parle du retour de Jésus qui est à venir. Et donc au final, elle nous montre comment va être l'Église, comment elle va évoluer d'ici là et comment elle sera à la fin. Et ce qu'on peut en dire au final, et ce qui devrait peut-être déjà nous faire réfléchir, eh bien que ce n'est pas très reluisant. L'Église sera partagée entre sages et fous. Dès le début de cette parabole, Jésus nous interpelle avec cette vision de l'Église, la sagesse et la folie au cœur même de l'Église. Ce n'est pas juste un ou deux en plus qui sont fous. Si on prend là le ratio, c'est 5 sages, 5 folles. Je vais reprendre une remarque du prédicateur anglais Charles Spurgeon qui dit « Quelle division cela fait dans l'Église, visible de Dieu ? Espérons que nous ne devons pas en déduire que jusqu'à la moitié des chrétiens ressemblent à ces vierges folles. Pourtant, notre Seigneur n'aurait pas mentionné une proportion aussi élevée s'il n'y aura pas à la fin un très grand mélange d'insensés et de sages. » Et ce sera le cas. C'est même déjà le cas, en fait. Le Seigneur le souligne, l'Église est déjà composée d'un corps mixte, en fait. Et pour qu'on comprenne bien aussi ce que ça veut dire, je vais m'appuyer sur une autre citation, ce coup-ci d'un évêque anglican évangélique, qui s'appelle John Charles Riles. Tous les membres de l'Église visible du Christ sont baptisés au nom du Christ. Mais tous n'entendent pas vraiment sa voix et ne le suivent pas. Tous sont appelés chrétiens et déclarés de la religion chrétienne. Mais tous n'ont pas la grâce de l'Esprit dans leur cœur et sont vraiment ce qu'ils prétendent être. Pourtant, nos propres yeux nous disent qu'il en est ainsi. Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'il en sera ainsi quand il reviendra, sous-entendant qu'il y aura cette division justement entre sages et folles. Parce que oui, nos yeux, à nous, humains, nous disent que l'Église du Seigneur est composée au final que de chrétiens véritables. Quand je vous regarde tous, je le souhaite, on est tous chrétiens. En tout cas, on se déclare tous chrétiens, j'espère que c'est vrai. Et nous, on ne peut pas voir les différences, justement. Rien ne nous distingue, en fait. Et rien ne distingue à la base ces vierges folles et sages. Si on regarde, elles ont toutes des beaux vêtements, elles ont toutes des lampes, des torches. Elles montrent toutes des marques extérieures, en tout cas, de guetter l'arrivée de l'époux. Elles font partie, en fait, en quelque sorte, de la communauté croyante. Et encore une fois, on aurait, je pense, tous dit que ces 10 jeunes filles, en tout cas, étaient vraiment des chrétiennes exemplaires, si on devait faire le parallèle. Et donc, elles étaient toutes si semblables et pourtant, en même temps, si différentes. Parce que oui, frères et sœurs, dès aujourd'hui, je vous invite à vous poser cette question. À quelle catégorie appartenez-vous ? Est-ce que vous faites partie des sages ? Ou est-ce que vous faites partie des chrétiens qui prétendent et prétendront appartenir au Christ ? Qui sont réunis avec l'assemblée du peuple chrétien pour attendre la venue du Seigneur ? Qui disent connaître le Christ ? Qui professent entendre l'évangile et le croire ? Mais qui, à la fin, seront appelés insensés ? Et alors, insensés pourquoi ? Insensé de ne pas avoir une provision suffisante d'huile. Voilà la différence entre la sagesse et la folie des vierges. C'est cette provision d'huile. Alors quand on étudie une parabole, il ne faut pas toujours chercher la symbolique dans toute chose, dans tout élément, parce que ça, on peut vite partir après très loin. Et si je prends l'exemple là, Jésus n'a pas dit explicitement ce que représentait l'huile. Maintenant, la symbolique la plus courante, l'huile, c'est souvent le Saint-Esprit. Et si on suit cette interprétation, on peut se dire que les chrétiens sages sont alors ceux qui ont cultivé leur communion avec le Seigneur, qui ont lu et médité la parole de Dieu, qui ont mis en pratique, qui ont reçu la vie de l'Esprit avec eux, en eux, en abondance, et qui sont capables de traverser une nuit complète, au sens spirituel, animée par cette flamme de l'Esprit, sans perdre la capacité d'être éclairés par l'Esprit de Dieu. Ils seront alors toujours en situation d'être prêts pour le retour du Seigneur. Même si justement cette onction du Saint-Esprit se retire ou elle s'atténue, si les temps deviennent difficiles, on sera toujours animé par la flamme de l'Esprit parce qu'on aura suffisamment de réserve en nous. Et ce n'est pas le cas des chrétiens insensés, qui tout en connaissant le Seigneur, se contentent au final d'être au bénéfice de ses bénédictions. Alors certes avec reconnaissance, mais sans se préparer justement à une nuit d'attente. Et c'est ce qui fait qu'ils seront pris de court. Alors oui, cette première question, je vais la redire, mais à quel groupe, à quelle catégorie de chrétiens appartenez-vous? C'est vraiment important de se poser la question aussi parce que l'invitation au repas des noces, elle est lancée à tous. Tous, nous sommes invités à accepter le salut qui est offert par Christ, à venir à sa table dans son royaume. Et on est aujourd'hui dans un temps de grâce où, voilà, vraiment le royaume est offert à tout être humain et tout le monde peut le recevoir. Mais il faut être conscient que lorsqu'on a répondu à cette invitation, comme les dix vierges l'ont fait au final, ben c'est pas fini. Et il peut alors y avoir un temps d'attente. C'est le deuxième point sur lequel je vais m'arrêter ce matin, l'attente. Parce que les jeunes filles doivent attendre. Elles étaient apprêtées, elles avaient hâte pour ce mariage, mais l'époux tarde. Alors une attente de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Combien de temps exactement, la parabole ne nous le dit pas vraiment, mais elle dit quand même quelque chose, elle dit que cela les amènera jusqu'au milieu de la nuit. C'est quand même une attente assez longue. Et qu'est-ce qui se passe alors? Elles s'endorment. À cause de cette attente, toutes s'endorment. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là, que ce soit les sages, les folles, toutes s'endorment. Alors il faut savoir aussi que le sommeil s'est souvent montré comme quelque chose de négatif dans la parole de Dieu. Si on prend par exemple dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 6, Paul nous dit « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Parce que le sommeil, l'assoupissement, c'est quelque chose de coupable. C'est une attitude à éviter. Dans d'autres paraboles de l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, si on prend celle du bon et du mauvais serviteur, si on prend celle des talents, hein, il y a non pas un époux qui tarde, mais le maître qui tarde dans ces paraboles. Et on peut alors voir justement comment les serviteurs vont se comporter en l'attendant. Et il ne faut justement pas dormir, on le voit, hein, on peut le dire en conclusion comme ça, il ne faut pas rien faire, mais il faut plutôt mettre à profit ce temps d'attente comme un temps de persévérance, un temps où nous devons porter des fruits, un temps où la question est vraiment, qu'allons-nous faire en attendant le maître? Est-ce qu'on va l'attendre en gardant en tête qu'il va arriver, et donc on va tout préparer pour son retour? Ou plutôt est-ce qu'on va se dire qu'on peut en profiter de cette attente, de ce temps qui nous est laissé, pour penser à nous-mêmes? Donc cette persévérance dans l'attente, le fait de penser aux intérêts du maître, hein, c'est bien évidemment des attitudes importantes. Mais pourtant, ce n'est pas en fait de cela qu'il s'agit ici, avec cette attente et ce sommeil. Encore une fois, si vous prenez beaucoup de commentaires, vous allez trouver plusieurs interprétations sur ce sommeil des vierges, parfois comme une chute par rapport à une tentation, parfois comme un relâchement dans la foi, dans la vie en fait religieuse, parfois comme une distraction qui est causée par les occupations du monde, ou encore parfois comme le moment de la mort corporelle. Eh bien personnellement, moi je rejoins l'interprétation qui nous dit que lorsque le Seigneur mentionne cet endormissement, il est pas en train il ne s'agit pas d'un jugement à ce moment-là. Ni sur les sages, ni sur les folles. Encore une fois, les sages dormaient autant que les insensés. Pourtant, elles sont quand même appelées sages. Elles s'endorment, mais au final, c'est peut-être un peu normal, parce qu'encore une fois, l'attente est longue, c'est au milieu de la nuit, je pense qu'elles sont fatiguées. Et le sommeil, on en a tous besoin, hein, c'est du repos aussi, c'est pas quelque chose en soi, en tout cas physiquement parlant, de mal. En fait, ce que le Seigneur veut nous dire ici, c'est que oui, il y aura un temps d'attente avant qu'il ne vienne. Et il veut nous prévenir que justement pendant ce temps d'attente, celui-ci sera un moment qui va en quelque sorte endormir les gens. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on ne peut pas être toujours sur le qui-vive, on ne peut pas toujours... on est humain en fait, donc c'est pas possible. Mais aussi parce qu'en tant qu'humain, on a besoin de s'occuper du quotidien aussi. On a des activités, on doit travailler, on doit peut-être pour les enfants aller à l'école, il y a des choses à faire dans cette vie humaine et sur Terre. Et donc, en quelque sorte, la leçon de cette parabole, contrairement aux deux précédentes que j'ai citées, ce n'est pas la persévérance. Mais c'est, comme le montre la suite de l'histoire, c'est le fait d'insister sur la présence, oui ou non, de l'huile. Et quand elle tombe dans le sommeil, ça ne veut pas dire que les 10 s'endorment, mais ça ne veut pas dire que les 10, encore une fois, n'étaient pas préparés. 5 l'étaient et 5 ne l'étaient pas. Et dans cette vie, si on peut dire, si on est préparé à ce retour de Jésus, on peut se permettre de continuer aussi avec entre la routine de la vie, c'est normal, encore une fois, de s'occuper, de vaquer à nos occupations, sans vouloir dire, attention, que cela doit nous amener à négliger le Seigneur, bien évidemment. Mais si par contre on n'est pas préparé, il nous faut réfléchir avant de nous endormir, avant de nous occuper du reste. Il nous faut réfléchir et faire attention justement à cette préparation. Tant qu'il est encore temps. Tant que nous en avons encore l'occasion. Parce que la tragédie, au final, c'est de dormir à cause d'une fausse sécurité. En pensant être prêt, alors qu'on ne saisit pas au final l'opportunité pour l'être réellement. Et de ce que dit le Seigneur lui-même, peu seront prêts. Il faut bien réaliser aussi que son retour sera une surprise pour tous. Donc on ne peut pas se dire 2 minutes avant, on va se préparer. Non. Il est marqué qu'il arrivera comme un voleur dans la nuit. Personne vraiment ne s'attendra à ce retour ou au moment où il va arriver. Son retour, on s'y attend, mais je veux dire, on ne connaît pas le moment. Certains prétendent savoir à quelle heure, à quel jour. Il y a déjà eu beaucoup d'annonces en ce sens. Mais vraiment, n'écoutez pas, frères et sœurs, ces faux prophètes. Matthieu 24, 36 nous dit bien « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors oui, l'époux arrive quand même. Il y a un temps d'attente, mais l'époux arrive. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» On voit encore une fois la soudaineté, l'imprévu de la venue du Seigneur qui réveille les 10 vierges. Et encore une fois, ici, on pourrait dire qu'il n'y a aucune différence apparente. Les 10 se réveillent. Les 10 veulent préparer leur lampe, parce que la faible portion d'huile qui était dedans, qui était renfermée dans cette lampe, elle s'est consumée pendant l'attente, pendant le sommeil. Donc elle commence à s'éteindre. Donc il n'y a aucune différence en apparence si on regarde le départ. Mais si on regarde la suite, il y en a une importante. Eh bien, c'est notamment leur état d'esprit à ces 10 jeunes filles, suite à ce réveil. Les sages sont calmes, sereines, on pourrait même dire peut-être reposées, ce qui ferait écho au fait que le sommeil n'était pas là comme quelque chose de mal. Mais elles sont en paix parce qu'elles sont préparées. Elles ont tout ce qu'il faut, elles avaient des vases avec de l'huile complémentaire, donc elles peuvent se repréparer et être prêtes pour rejoindre l'époux. Mais ce n'est pas le cas des 5 folles, par contre. Elles sont prises à l'improviste, elles sont prises au dépourvu. Leurs lampes s'éteignent, elles se rendent compte qu'au final, elles vont se retrouver dans le noir, elles n'ont pas ce qu'il faut pour marcher, pour aller rejoindre l'époux. Elles ne sont pas capables de s'éclairer, donc elles doivent commencer à paniquer, si on était à leur place. Alors quelle est la solution qu'il leur reste ? Crier à l'aide, implorer au final qu'on leur donne de l'huile. Sauf que la réponse qu'on leur donne n'est sûrement pas celle à laquelle elles s'attendaient. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Non. Ça peut paraître dur comme comportement. Et je pense même que peut-être le monde dirait aujourd'hui, mais où est la charité chrétienne dans ce comportement ? Et est-ce que les sages, au final, sont-elles si sages ? Mais en réalité, elles ne peuvent pas répondre autre chose que non. Alors pourquoi ? Déjà parce que si elles donnent de leur huile, au final, personne n'arrivera à l'époux, et au festin, et donc au royaume des cieux. On pourrait même dire qu'elles passeraient de sages à insensées, à folles, parce que toutes les précautions qu'elles avaient prises au départ pour être sûres de pouvoir participer, au final, ça n'aurait servi à rien, personne ne pourrait y participer. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'impossibilité pour les vierges sages de donner aux folles de leur huile vient du fait que nul homme ne saurait communiquer à un autre les grâces de la foi de l'expérience personnelle d'une vie de sainteté et d'amour. Le salut n'est pas transférable. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, du salut offert sur la croix par Jésus-Christ. Et celui-ci doit être acquis en fait par chacun pour son propre compte, en se tournant vers Jésus-Christ. Parce que lui seul en est la source, et ce n'est qu'en nous approchant individuellement de lui que nous pouvons être sauvés. Cela nécessite une décision personnelle, mais aussi une relation personnelle avec Christ. Le salut qu'on reçoit de Dieu ne se donne pas entre les hommes. Je vais prendre trois exemples qui nous viennent aussi de la parole de Dieu, par exemple, où on a un jour, il y a Moïse qui a demandé à Dieu qu'il soit condamné à la place du peuple d'Israël qui avait péché. Dieu lui a répondu que c'est celui qui pêche qui mourra. L'apôtre Paul aussi aurait souhaité être maudit si son peuple, les Juifs, pouvait être sauvé par le fait que lui soit maudit, mais ce n'était pas possible. L'homme riche en enfer aurait voulu aussi l'assistance de Lazare, mais ce n'était pas possible non plus. Cette assistance, on ne pouvait pas lui donner. Chaque homme est redevable devant Dieu seul. Et lorsque Jésus reviendra, personne ne pourra compter sur une autre personne. Ce à quoi on assiste à ce moment du récit, ben c'est rien d'autre que le grand tri qui arrivera à la fin des temps. 5 vierges étaient prêtes, les autres non. Et ce grand tri, il aura lieu dans l'Église également. Et une autre parabole qui en parle, celle du blé et de l'ivraie, qui pousseront ensemble, qui se ressembleront tellement qu'il faudra pour le moment attendre avant de commencer à extraire les mauvais épis, de peur de tirer le blé avec. Mais à la venue du Seigneur, lui fera la distinction. Donc oui, le tri aura lieu dans l'Église. Et ne pensons pas encore une fois comme les folles qu'il sera alors encore temps d'essayer de se préparer quand le Seigneur sera là, quand il arrivera. Elles tentent un dernier recours à aller acheter de l'huile parce qu'elles n'ont plus le choix. Si elles veulent participer, il leur faut bien quand même pouvoir avoir de la lumière. Mais ont-elles encore le temps d'y aller et de revenir? Non. Les vierges sages sont admises au repas, mais les vierges folles restent dehors. Parce que le retour de l'époux marque aussi une réalité qui est importante, et ce sera le dernier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est que le temps de grâce dans lequel nous sommes est limité. Et il va prendre fin. Une porte fermée et une phrase « Je ne vous connais pas ». Cette exclusion effrayante nous redit sans équivoque « Soyons prêts ». Pour rappel, Dieu a déjà fermé une porte il y a de cela des années, c'était celle de l'Arche de Noé. Mais il va le refaire, mais cette fois-ci avec la porte du royaume des cieux. Et ce n'est pas demain qu'il faudra être prêt, c'est bien aujourd'hui. Parce que demain, ce sera trop tard si le Seigneur revient dès maintenant. Parce que Jésus tarde à revenir, on pourrait dire ça, mais il ne tardera pas au-delà du temps imparti. Et arriver après la fermeture des portes, c'est trop tard. Le jugement éternel sera tombé. Et à la question, mais la grâce de Dieu étant éternelle, peut-il vraiment fermer au final cette porte à des êtres qu'il a aimés? Peut-il vraiment les condamner à la perdition? La réponse est oui, il le peut. Et il le fera. Dieu nous a donné en tant qu'humains la liberté de faire nos choix. De l'aimer ou non. D'exercer vraiment cette liberté qu'il nous accorde comme on veut. Sauf que qui dit liberté dit aussi responsabilité. Et on peut choisir de servir Dieu ou de ne pas le servir. D'adopter l'attitude du bon ou du mauvais serviteur, si je fais écho encore une fois à l'autre parabole. De se préparer ou de ne pas le faire, c'est notre responsabilité. Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit quoi ? Nous dit, et je remercie ma femme parce que Notre sœur Varinia parlait de versets de paroles à apprendre chaque jour et elle le fait avec nos enfants et ce verset en fait partie. Et il nous dit ce verset, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Nous sommes avertis. Il y a des conséquences à nos choix. En fermant cette porte, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, mais c'est l'homme qui s'est condamné lui-même, parce que Dieu, lui, il a tout fait pour éviter cette fin. Et avant de conclure justement ce partage, je vais reprendre aussi des extraits qui viennent d'articles ou de messages de deux personnes. Alors je ne vais pas commenter ces deux extraits. Le premier, il vient d'un message du pasteur Florent Varac, qui a été longtemps pasteur dans une église près de Lyon, qui continue à enseigner encore aujourd'hui à l'Institut biblique de Genève et puis dans différentes œuvres missionnaires aussi. Et il a partagé ceci lors d'une de ses prédications. Il y a une chose qui me hante, et je prie parfois pour cela. Je m'imagine que Jésus revient pendant un culte alors qu'on est rassemblés, et que plusieurs ne soient pas pris pour être avec Jésus, que plusieurs ne soient pas sauvés, que plusieurs, tranquillement assis le dimanche, pensant que Jésus leur sourira à son retour, ne soient à jamais choqués de se rendre compte qu'ils n'ont eu de la foi chrétienne que la façade. Et parce que Jésus met tant l'accent sur ce point-là, c'est tellement important de le souligner. La seconde citation, elle vient d'un commentaire, encore une fois, de John Charles Ralphs, que j'ai cité tout à l'heure, qui a pu dire également ceci. Nous pouvons inscrire dans notre esprit qu'il y aura un jour un changement complet d'opinion quant à la nécessité d'un christianisme décidé. À l'heure actuelle, nous devons tous être conscients que la grande majorité des chrétiens professants ne s'en soucient pas du tout. Ils n'ont aucun sens du péché. Ils n'ont aucun amour pour le Christ. Ils ne savent rien de la nouvelle naissance. La repentance, la foi, la grâce et la sainteté ne sont pour eux que des mots et des noms. Ce sont des sujets qu'ils n'aiment pas ou pour lesquels ils ne se sentent pas concernés. Mais tout cet état de choses prendra fin un jour. La connaissance, la conviction, la valeur de l'âme, le besoin d'un sauveur, tout éclatera un jour dans l'esprit des hommes comme un éclair. Mais hélas, ce sera trop tard. Il sera trop tard pour acheter de l'huile lorsque le Seigneur reviendra. Les erreurs qui ne sont découvertes que ce jour-là sont irrémédiables. Les vrais chrétiens seront seuls à être trouvés prêts au second avènement, lavés dans le sang de l'expiation, revêtus de la justice du Christ, renouvelés par l'Esprit. Ils rencontreront leur Seigneur et s'asseoiront au souper des noces de l'agneau pour ne plus sortir. Et c'est sûrement une perspective bénie. Ils seront avec leur Seigneur, avec celui qui les a aimés et s'est donné pour eux, avec celui qui les a portés à travers leur pèlerinage terrestre, avec celui qu'ils ont vraiment aimé et suivi fidèlement sur terre, bien qu'avec beaucoup de faiblesse et beaucoup de larmes. Et la dernière citation qui suivait après, toujours de ce même prédicateur, donnait une vision qui était intéressante aussi, parce qu'on parle souvent de la porte fermée comme l'exclusion des vierges folles. Mais si on regarde de l'intérieur, on peut se dire aussi, mais la porte sera enfin fermée, et c'est ce qu'il dit. Fermée à toute douleur et chagrin. Fermée sur un monde méchant et cruel. Fermée sur un diable tentateur. Fermée sur tous les doutes et toutes les peurs. Et fermée pour ne plus être rouverte. Amen. Et frères et sœurs, est-ce que j'ai besoin d'ajouter encore quelque chose à tout ceci pour conclure? Je ne vais pas le faire, je vais simplement, je vous invite à retenir peut-être juste ces quelques recommandations. La première, c'est soyez prêts. Le Seigneur l'a dit 5 fois au moins dans ce sermon sur le mont des Oliviers, alors je pense que je peux bien le dire encore une fois aussi. Soyez sages et prêts pour son retour. Et souvenez-vous toujours aussi qu'être en retard, même de peu, c'est être en retard pour l'éternité. Et enfin aussi, je vous invite à ne pas vous arrêter à la justification. Notre sœur en a parlé du chemin de la sanctification. Je ne veux pas dire par là qu'il nous faut mériter le salut, qu'on peut se justifier nous-mêmes, bien évidemment, mais notre chemin de sanctification doit au final aussi révéler notre cœur véritable. Et on ne doit pas prendre, ne prenons pas notre baptême pour une preuve de conversion. Ne prenons pas non plus notre présence à l'Église pour une preuve de conversion. Mais vraiment, cherchons à connaître véritablement Dieu, à renforcer notre relation avec lui chaque jour, en passant du temps avec lui, en recherchant sa volonté et en étant soumis au Père. Rappelons-nous aussi ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Alors oui, frères et sœurs, pour terminer, je ne peux que vous exhorter à vivre au final chaque jour avec la crainte de l'Éternel. Amen.